passer un peu de temps avec nous. Ce sera la première question, c'est quoi que ça représente pour vous, l'artiste Théo et ses chefs-d'œuvre?
Alors, ce que a fait Théo, c'est qu'il a pris des éléments qui, en tant que tels, ne valent rien du tout, qui sont des tubes qu'on utilise pour isoler les câbles électriques dans le bâtiment. Je pense même qu'une partie d'entre eux, c'était du rebut. Mm-hmm. Et puis, en fait, il a assemblé tout ça. Il a imaginé d'abord ce qu'il voulait obtenir comme résultat. Ensuite, il a assemblé tout ça. Et par l'ingéniosité qu'il a mis à faire tout ça, par l'attention maniaque à chacun des détails, il a réussi à transformer cette espèce de squelette inerte en quelque chose qui bouge. Nous, en fait, dans le domaine de l'horlogerie, en particulier pour une entreprise comme la nôtre, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de fabriquer des mécanismes complexes qui vont être placés dans un volume extrêmement restreint et qui sont aussi beaux que possible. Mais en fait, lorsqu'on prend les différents éléments séparément, ça ressemble, bon, c'est des bouts de métal brillants. Ensuite, ils vont être assemblés. Et puis, ça reste un objet inerte. Et tout d'un coup, en fait, lorsqu'on a remonté la montre, il ne se passe toujours rien. Il y a de l'énergie, mais cette énergie, la bête est toujours morte. Et puis tout d'un coup, hop, on touche l'échappement et tout se met à bouger. L'échappement, le cœur de la montre se met à battre, les aiguilles se mettent à tourner, les roues elles-mêmes commencent à bouger. Et donc, on part de quelque chose qui est fait à la base avec de l'oxyde de fer, hein, c'est-à-dire de la rouille. Et à travers tout un tas de processus et de travaux qui viennent d'une longue tradition, on arrive à transformer ça en cet objet un peu magique qui est une montre mécanique compliquée. Et dans ce sens-là, eh bien, c'est très très semblable. Et moi, quand j'étais un petit garçon, mon grand-père, de temps en temps, passait, à mon avis, beaucoup trop de temps à ramener des montres à la maison avec lesquelles il avait des soucis. Et puis moi, j'étais pas très content parce que j'aurais beaucoup préféré qu'ils viennent jouer avec moi. Puis une fois, il m'a amené, j'avais, je pense, je sais plus très bien, 6 ou 8 ans. Et puis il m'a pris par la main et il m'a amené à l'établi qu'il avait à la maison. Et puis il m'a montré ce mouvement qui paraissait toujours qu'un assemblage d'objets inertes. Et puis il a posé l'échappement et il l'a activé. Et tout d'un coup, ça s'est mis à bouger. Et dans mes yeux de petit garçon, c'était vraiment magique. Cet objet qui faisait tic-tac, qui oscillait, et puis tout ça qui bougeait. Et quand la première fois où j'ai vu la vidéo qui représentait une des bêtes de Théo, je me suis retrouvé dans le corps de ce petit garçon qui voyait quelque chose qui l'avait émerveillé. Et je me suis vraiment dit qu'il y avait beaucoup de choses en commun dans ce qu'il faisait, mais qu'en même temps, aussi la façon dont lui avait abordé la chose pouvait potentiellement nous amener peut-être à faire certaines choses différemment. Parce qu'il y a une chose à laquelle je crois profondément, c'est que les artistes sont un peu des gens qui ont... C'est un peu comme s'ils avaient des verres différents, des lentilles différentes, et qu'à travers ces lentilles, ils étaient capables de voir le monde un peu différemment, sous un angle différent.
Ouais, ouais.
Et donc, si nous, on arrive de temps à autre à leur emprunter ces lunettes et à regarder notre environnement avec ça, ça devrait nous permettre aussi de nous transformer, d'évoluer vers quelque chose de différent. Je vous donne un exemple un petit peu qui illustre ça. Ça ne s'est pas fait par ce process, mais je trouve que c'est intéressant. Il y a 40 ans, en pleine crise de l'industrie horlogère, liée à l'arrivée du quartz, nous avons lancé notre modèle phare, ce qui allait devenir notre modèle phare, qui était la Royal Oval, et qui a été perçu comme étant une rupture avec tous les codes de l'horlogerie, puisqu'à cette époque, tous les acteurs de notre créneau faisait des montres en métal précieux qui étaient rondes ou ovales. Ouais. Et nous, on arrivait avec une montre en acier, avec des arêtes vives, des angles vifs, des vis visibles, enfin vraiment quelque chose qui était à l'opposé de tout ça, et on le vendait au même prix qu'une Patek en or, ou deux fois le prix d'une Rolex. Mais en fait, si on regarde les choses un peu plus, d'une façon un peu différente, je pense que ce qui a été senti quelque part avec l'arrivée du quartz, c'est que ça allait entraîner une façon différente de porter la montre. Avant, les gens qui portaient des montres compliquées, ils faisaient très attention. Ils les enlevaient suivant ce qu'ils allaient faire. Ils savaient qu'il ne fallait pas les mettre sous l'eau, etc. Et nous, on a imaginé que l'arrivée de montres quartz peu fragiles, peu sensibles à quoi que ce soit, allait amener les gens à changer leur comportement. Et donc, on s'est dit, oui, mais nous, on veut continuer à faire des bons mouvements, des mouvements compliqués, des mouvements délicats. Donc, il faut les protéger. Et donc, c'est ça. C'est que la Royal Oak, en fait, c'est le coffre-fort qui protège quelque chose d'extrêmement précieux qui est ce mouvement. Il fallait aussi qu'il soit beau, mais il devait être extrêmement résistant. Et donc, il fallait choisir un matériau qui soit un matériau extrêmement résistant. Et c'est pour ça qu'on a pris l'acier inoxydable. Mais à l'époque, d'usiner de l'acier inoxydable, c'était quelque chose qui était extrêmement difficile. Et en particulier des formes comme celle de la Royal Oak et de son bracelet. Donc le premier proto, il a été fait en or gris. Et donc ce que ça veut dire, c'est qu'il aurait été meilleur marché de faire une Royal Oak en or gris que de la faire en acier. Et ça, c'est un message important. Ce que ça veut dire, c'est que nous sommes des gens pour lequel le matériau brut n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le travail qui est fait là-dessus. Et donc, ça veut dire qu'on a pris de la rouille, et avec le travail des ingénieurs, des designers et des horlogers, on l'a transformé en quelque chose qui valait plus que de l'or.
Quelque chose de magique. Voilà. Comme
Théo. C'est exactement ce que fait Théo. Donc, c'est pour ça. Et donc, de nouveau, ça veut aussi dire qu'on a eu la chance d'avoir, à cette époque, des gens à la tête de l'entreprise qui a une vision, suffisamment visionnaire pour anticiper ce genre de choses. Et maintenant, dans un monde où tout est en train de changer, il y a des produits connectés, il y a des technologies différentes qui arrivent, les choses. Je me dis que peut-être qu'en entrant un peu dans le monde de l'art, on arrivera peut-être à comprendre les choses de façon différente et à se préparer pour le futur.
Ah, c'est super. Merci Olivier pour une réponse très profonde et philosophique. Mais la dernière question, c'est qu'est-ce que ça représente pour vous les blogueurs? Puisqu'il y a des groupes qui sont des fanatiques extraordinaires. Pour moi, je suis ici juste.
Alors, les blogueurs sont des gens qui nous permettent d'atteindre. À l'origine, c'était des gens qui permettaient d'atteindre une couche de la population qui n'était que peu sensible aux médias traditionnels. Ça, c'était le début. Mais surtout, le point extrêmement important, c'est que les blogueurs sont des gens qui vont mettre en place un certain nombre d'éléments liés à nous et qui vont interagir avec les clients, avec les marques, etc. Donc ça permet de nouer un dialogue, d'approfondir ce dialogue. Ça permet aussi, ce qu'on constate de plus en plus, c'est que beaucoup des gens des nouvelles générations ne croient plus tellement à ce qu'ils vont lire dans la presse, à ce qu'ils vont voir sur les médias traditionnels. Ce en quoi ils croient, c'est entre ce que vont dire leurs pères.
Ouais.
Et donc, ça veut dire que dans ce qui entoure les blogs, eh bien, il y a des gens qui échangent, qui partagent. Ça veut aussi dire que les marques ne peuvent pas mentir. Parce que si il y a des mauvaises expériences qui ont été faites, ça va ressortir, les gens vont échanger, etc. Donc, ça permet d'une part d'atteindre les gens de façon différente et d'entretenir un dialogue avec eux.
C'est authentique.
Exactement. Ça permet d'entretenir ce dialogue. Ça oblige aussi à avoir un message qui est cohérent, parce que s'il est incohérent, il y a toujours quelqu'un qui va venir dire, écoutez, là, ils ont raconté ça, maintenant ils disent ça, c'est vraiment des rigolos. Donc ça nous oblige à une certaine cohérence. Et puis en plus de ça, ça nous permet aussi de sentir un certain nombre de choses par rapport aux souhaits, par rapport à l'évolution des désirs des gens. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous, Donc nous faisons des produits dont nous sommes fiers et dont nos horlogers sont fiers. Et ça veut dire que nous souhaitons aussi que les gens qui les achètent sont des gens qui en soient fiers et qui soient capables, qui les touchent émotionnellement. Ça. Vous avez dans les clients, pour prendre deux catégories, vous avez les gens qui achètent un produit comme status symbol, donc comme façon de montrer ce qu'ils sont, qu'ils ont réussi, et pour que les autres voient ce qu'ils ont. Mais à part ça, vous avez surtout les gens les plus intéressants, c'est les gens qui achètent un objet parce que cet objet leur parle, parce que ça crée une émotion,
fort, hein,
parce que ouais, la personne l'achète pour lui. Et à la limite, c'est pas important que les autres... ça n'intéresse absolument pas de savoir ce que les autres pensent de ce qu'il a fait. Lui, ouais, ça lui parle. Il va peut-être le partager avec un ami parce qu'il veut partager quelque chose qui lui est cher.
C'est ça.
Donc, ça veut dire que pour nous, c'est important de trouver des moyens d'atteindre ces gens. Alors, il y en a qui sont déjà des membres de notre famille, je veux dire, qui nous connaissent, etc. Et puis, il y en a d'autres qui ne nous connaissent pas. Et si on arrive à les atteindre, et en particulier par les blogs, ben ça nous permettra d'avoir parmi nos clients une part de plus en plus importante de gens qui sont capables de comprendre ce qu'on est et de l'apprécier. Et pour nous, on en sera très contents parce qu'on sera super contents de pouvoir leur donner ce produit qui les rend heureux. Et nos horlogers seront très contents de le savoir et à eux, ça va leur donner l'énergie de continuer à faire ce qu'ils font et à le faire encore mieux. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qu'on peut enclencher par ce moyen-là. Mais pour ça, effectivement, il faut des moyens de pouvoir discuter avec eux, et vraiment les blogs, c'est un élément clé dans ce sens-là.
Je pense que vous comprenez ça. Bien. Merci bien, monsieur.
Mais je vous en prie.
Au démarre. À bientôt.
Et bonne suite de journée.
À vous demain.